carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Gabriel Barbier-Muller est un collectionneur d'art hors pair. Il est issu d'une famille de célèbres collectionneurs qui a éduqué son œil aux objets d'art quotidiennement en famille, à la maison ou dans les musées d'Europe et d'ailleurs, ou bien au cours de voyages durant son enfance et sa jeunesse. Cependant, il est, de sa seule volonté, devenu un passionné du Japon, de son histoire et de ses arts. À 14 ans, la découverte d'une armure de samouraï à Paris dans une galerie de la rue de Seine l'émerveille et scelle en lui l'idée de constituer plus tard une collection d'armures de samouraï pour faire partager ce qui fut pour lui, habitué à grandir entouré de près de 7000 œuvres d'art, ce qui fut pour lui un véritable choc esthétique. C'est de manière passionnée et encyclopédique qu'il a tout appris sur le Japon et ses arts, au point d'être aujourd'hui à la tête probablement de la plus belle des collections d'armures japonaises au monde. Avec sa femme Anne et leur fondation installée à Dallas, ils ont accumulé pendant 20 ans près de 600 armures, à peu près 3500 objets en tout, masques, casques, parures, portés par les guerriers japonais d'autrefois. Un pan d'histoire inscrite dans la mémoire du pays du soleil levant, un mythe dont le cinéma international s'est emparé et qu'ils nous dévoilent et nous font partager dans une magnifique exposition présentée au musée Branly, Samouraï, armure du guerrier, du 8 novembre au 29 janvier 2012. Gabriel Barbier-Muller, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui par téléphone depuis Dallas pour évoquer votre collection, pour nous parler de cette exposition dont vous êtes le commissaire pour le plus grand plaisir des Parisiens qui iront de surprise en surprise devant l'exceptionnelle beauté de ces habits de guerre créés pour le combat et la mort qui allient la fonction des armes aux arts. Gabriel Barbier-Muller, pourquoi tant de beauté au service du combat et de la guerre? C'est une véritable intrigue pour le visiteur de découvrir une telle tradition esthétique attachée aux armures présentées.
Tout d'abord, il faut se mettre un petit peu dans le contexte du Japon de l'époque des samouraïs. Le samouraï était donc censé non seulement passer sa vie à améliorer son maniement des armes, mais aussi à devenir un homme complet et donc un homme qui savait écrire, peindre, faire de la poésie, étudier la cérémonie du thé. Donc c'était un peu un homme de la Renaissance. Et tout cela, on le comprend mieux quand on lit le livre célèbre du Cercle des Cinq Roues de Musashi Miyamoto, qui reste peut-être le samouraï le plus fameux et qui, à la fin de sa vie, s'est enfermé dans une grotte pour écrire donc et codifier toute la philosophie du samouraï qui va bien au-delà du maniement des armes.
C'était des guerriers exceptionnels qui obéissaient aussi à un code d'honneur particulier, le code du Bushido. Et partie de l'exposition, d'ailleurs, explique ces valeurs transmises de samouraï en samouraï. Ces hommes portaient des armures et des armes qui sont de véritables chefs-d'œuvre. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette tradition esthétique de l'art au service des armes?
Je crois que quand vous lisez, par exemple, les ouvrages du Code du Bushido ou le livre que je viens de mentionner, vous vous rendez compte qu'il y a toute une philosophie de la recherche en profondeur, aussi bien spirituelle qu'esthétique. Il vient ensuite se projeter dans les objets qui entourent le samouraï, tels que son armure. Les samouraïs n'étaient pas des commerçants et ne s'intéressaient donc pas au commerce de l'argent, mais ils avaient l'obligation et le besoin de s'entretenir aux armes, au service de leur seigneur, et donc passer beaucoup de temps, surtout que certains d'entre eux, après le commencement de l'ère de Tokugawa qui a unifié le Japon et qui lui a permis donc de vivre dans une période de paix très longue. Pendant cette ère de Tokugawa, l'ère Edo, le samouraï donc dispose de plus de temps et aussi de plus de moyens pour chercher un plus grand raffinement dans tous les aimants qui comportent ses outils de travail. Donc le casque, le kabuto, le plastron, les armures que vous verrez dans l'exposition et qu'il fallait que le samouraï soit vraiment un maître d'œuvre. Il engageait un forgeron, mais il engageait aussi des gens qui étaient capables de créer des véritables sculptures sur les cases, de sculpter le bois, de forger ou de sculpter des éléments rapportés qu'on trouve aussi sur les armures, des arabesques en argent et ainsi de suite. Donc il y a toute une recherche esthétique qui dépasse la recherche uniquement fonctionnelle, mais qui reste, la fonction de protection et de défense reste quand même essentielle.
Essentielle. On est fasciné par la richesse des matériaux, l'extraordinaire savoir-faire des artisans, mais on est presque tenté de dire des artistes, parce que la conception de ces armures, de ces casques, effectivement, semble aussi bien obéir à une fonction pragmatique, hein, celle du combat, comme vous venez de nous le dire, et puis on est surpris de l'extrême variété des formes et des matériaux utilisés, mais surtout des formes, des alliances, de la créativité de ces œuvres. Alors, ces samouraïs étaient entourés d'artistes. Comment étaient conçues ces armures et ces armes exceptionnelles?
Alors, on ne sait pas vraiment exactement comment se déroulait le processus. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des grandes dynasties de forgerons, qui travaillaient et qui coopéraient avec d'autres artistes, des artistes qui savaient modeler le cuir ou le papier peint, qui savaient laquer des sculptures extraordinaires que l'on trouve sur les kawari kabuto, donc ces casques de forme extraordinaire, qui surmontent donc en fait la bombe en acier, de véritables sculptures, et autres. Donc il y avait certainement un élément de coordination, probablement géré par les gens dont on connaît les dynasties, tels que le Miyoshin, les Saotome, qui étaient les grands forgerons, certains pendant plusieurs siècles.
Parce que alors, les casques ont même des noms qui évoquent tout de suite un peu le rêve, qui peut aussi tourner au cauchemar, hein, un monde de légende. Mais il y a des casques de feu à flammes, des casques avec des cornes, mais bon, les mots sont faibles comparés à ce qu'on voit visuellement. Des casques modifiés en forme de hache, il y a des masques protecteurs, des demi-masques. Vous, collectionneur, vous êtes toujours surpris, j'imagine, de découvrir de nouvelles pièces, cette variété, cette immense richesse quand même dans la création de ces armures.
Oui, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vraiment voulu montrer la diversité et l'esprit extrêmement créatif et varié de ces samouraïs et de ces forgerons qu'ils employaient. Puisque, véritablement, comme vous le voyez dans l'exposition, avec les 140 objets exposés, on n'est jamais au bout de ces surprises.
Non.
On tourne d'un casque vers l'autre, dans la forêt des casques que nous avons créée dans l'exposition, et vous découvrez toujours de nouveaux éléments, une nouvelle créativité. Et je peux vous dire que même, j'ai une assez grande bibliothèque de livres du Japon ancien et d'Europe et autres, on retrouve une forme infinie et variée de casques et rarement deux fois le même casque. Et c'est assez étonnant quand on compare ça aux armureries et aux arsenaux qui nous restent médiévaux, de Soleure en Suisse ou en Autriche et en Italie et ailleurs. Et on se rend compte qu'au fond, en Europe, on copiait les casques à l'infini, on créait vraiment des armures homogènes. Au Japon, au contraire, chaque samouraï a son emblème de famille, son mon individuel. En plus de ça, il a des cornes, ils ont des manteaux, les jimbaori qu'on porte sur les armures de couleurs différentes. Enfin, il y avait deux samouraïs ne se ressemblaient pas, à l'exception d'un groupe qui combattait et qui avait adopté les armures tout en rouge, mais qui elle-même, chaque armure diffère de l'autre dans d'une couleur rouge qui reste identique. Nous en avons un exemple dans l'exposition.
Quelles sont les sources d'inspiration, justement, des créateurs de ces armures de samouraï? On évoquait tout à l'heure le code Bushido, mais est-ce qu'elles intègrent des symboles religieux?
Un peu les symboles religieux, donc la roue, entre autres, mais aussi, et on a essayé au sein de l'exposition de montrer les influences qui existaient, non seulement les influences spirituelles, mais aussi, par exemple, les créatures marines,
oui,
et les poissons fondant l'eau, ou alors...
Et la mer est importante pour le Japon.
La mer est très importante, et il y a une bataille fameuse où une flotte ennemie a été détruite par un raz-de-marée, probablement comme celui qui a malheureusement touché le Japon cette année. Donc vous avez beaucoup de représentations de vagues, de forces, de poissons fendant l'eau, qu'on le retrouve sur les casques et sur les paravents, par exemple.
C'est la première fois que vous montrez dans le cadre d'une exposition grand public votre collection, en fait. Disons qu'elle sort du musée. Est-ce une démarche particulière de la part d'un collectionneur d'aller à la rencontre comme ça du public, même s'il y avait une invitation du musée Branly? Quelle était votre intention en conviant le public?
Je crois que le premier réflexe d'un collectionneur, c'est un plaisir qui peut paraître parfois égoïste. Pas tout à fait égoïste, parce que je crois que tout collectionneur d'objets anciens a la conscience de n'être qu'un propriétaire, si on peut l'appeler comme ça, temporaire, plutôt un dépositaire. Quand on possède un casque qui a 300 ou 500 ans, on pense aux gens qui l'ont détenu avant vous et ceux qui vont le détenir après vous. Et donc on conserve cet objet, on le garde un peu pour le patrimoine humain. Mais d'un autre côté, ma femme et moi qui collectionnons ensemble avons beaucoup profité de tout l'esthétisme, la créativité que nous voyons dans les casques, les armures japonaises, pour éduquer nos 3 enfants. Et aujourd'hui, nous avons un peu une volonté dans le musée, petit musée dédié aux samouraïs que nous avons créé.
À Dallas ?
Oui, à Dallas, d'éduquer les enfants, de leur enseigner ce qu'est le Bushido, et de leur enseigner qu'on peut être à la fois fort, extrêmement fort et capable d'une violence extrême, tout en se contrôlant, en évitant la violence inutile et en se consacrant à la poésie, à la calligraphie, à la peinture, donc en étant un homme beaucoup plus complet, ce qui ne vous rend pas faible, mais qui vous permet vraiment d'être un homme accompli. Donc c'est un peu ça qui nous amuse et qui nous intéresse. Et nous sommes toujours ravis de voir des classes d'enfants venant et avec leurs professeurs. Et ils sont fascinés d'un côté par ces samouraïs à cheval et le côté guerrier et extraordinaire. Mais ensuite, ils apprennent à creuser un petit peu, à regarder d'un œil un peu plus attentif les éléments qui constituent une armure et les soiries, comme je disais, les arabesques, la manière
dont les plaques sont assemblées, les nœuds. J'étais assez fascinée, même par les jambières. C'est impressionnant la façon aussi dont chaque objet ou pièce est rapporté à l'ensemble. Il y a une très grande harmonie dans toutes les pièces présentées. Gabriel Barbier-Muller, j'imagine qu'il y a peu de collectionneurs d'armures de samouraï, que vous êtes peu nombreux dans le monde. Est-ce qu'il y a des filiations entre collectionneurs? Vous avez racheté la collection de l'artiste Armand, est-ce que vous l'avez connu? Comment ça se passe, ça?
Je n'ai acheté que quelques éléments de la collection Armand. J'ai par contre acheté
une autre collection.
Oui, mais il y a effectivement des groupes, petits groupes, c'est un cercle très international.
Oui.
Aussi bien qu'on trouve des collectionneurs en Angleterre, en Allemagne, en Suède, au Japon évidemment. Et avec l'Internet, maintenant, on a évidemment un avantage qui permet de transcender les problèmes de la distance. Mais je dirais que Paris reste un centre essentiel. Vous avez plusieurs collectionneurs et peut-être les meilleurs marchands qui connaissent le mieux ce domaine. Malheureusement, on a un peu un changement de génération. Dans ma famille, on dit que les collections tournent tous les 50 ans. Mais pour ce faire, il faut quand même avoir de grands marchands, des marchands érudits. Et on a beaucoup maintenant qui prennent leur retraite et qui ne trouvent pas de remplaçants.
Sur quels critères d'achat vous fondez-vous quand vous découvrez une pièce qui pourrait faire partie de votre collection?
Le coup de cœur.
Le coup de cœur?
Foudre. C'est le coup de foudre ou pas?
D'accord.
Et si c'est pas le coup de foudre, bon, avec pas loin de 500 objets maintenant, ma femme et moi sommes devenus beaucoup plus difficiles, mais il faut avoir le coup de foudre. On me demande toujours quel est l'objet que vous préférez, et c'est un petit peu que si on vous demandait quel est celui de vos enfants que vous préférez. On les aime tous, et d'ailleurs ma fille a choisi les objets dont nous avons fait don au musée du Quai Branly, parce que j'aurais été incapable de le faire. Et elle me disait, puis celui-là, je dis, ah non, pas celui-là. Et celui-là, non, non, pas celui-là. Et au fond, nous ne vendons jamais, mais nous avons toujours de nouveaux coups de cœur, quoique ça devient de plus en plus rare. Les objets, je dirais, depuis 25 ans, le marché, c'est tous les marchands vous le diront, c'est beaucoup appauvri, on trouve peu de nouvelles matières.
Est-ce à dire qu'on ne découvrira plus de nouvelles armures ou très peu? Qu'est-ce que vous pouvez espérer? Qu'on tombe sur un trésor?
Écoutez, on en a quand même une que j'ai rachetée donc, à M. Saporta, qui est un collectionneur français. C'est une armure qui a été découverte à Tours, littéralement dans un tonneau sur lequel il pleuvait, et dans un état lamentable, couverte de champignons, et elle est dans l'exposition. Et c'est une armure qui a été découverte il n'y a pas très longtemps. Donc on trouve des choses. C'est une armure très importante dont on ne sait rien, malheureusement, parce qu'on ne sait pas comment elle est arrivée là, par quel hasard elle a été ramenée par quelqu'un et livrée là. Donc ça peut encore arriver, il y a des surprises. Et avec aussi, une fois de plus, l'Internet et peut-être une exposition comme celle que nous avons fait au musée du Quai Branly.
Va peut-être susciter.
Anglais et français pensent que c'est la plus grande exposition qu'il y ait eu depuis 35 ou 40 ans en France et en Angleterre. L'exposition de la collection Armand à l'Esplanade, c'était dans les années 70, je crois, fin des années 70, début des années 80. Mais depuis, il n'y a pratiquement pas eu d'exposition.
Donc c'est l'occasion d'aller voir ces objets exceptionnels que vous collectionnez sur, disons, la base d'une immense connaissance d'abord et sur la base d'une émotion quand vous êtes face à ces œuvres. Merci Gabriel Barbier-Muller. Je rappelle aux auditeurs qu'en dehors de l'exposition du musée Branly, à voir absolument jusqu'au 29 janvier 2012, je rappelle le titre « Samouraï, armure du guerrier », eh bien ils peuvent aussi se rendre à Dallas où vous êtes entrepreneur et où avec votre épouse vous avez ouvert un musée, le musée d'Anne et Gabriel Muller, Anne and Gabriel Muller Museum, qui abrite votre collection d'armures de samouraï, un musée unique au monde. Merci Gabriel Barbier-Muller.
Je vous en prie, merci.